Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf doc, l'émission médicale de Radio B. Docteur Meyer, bonjour.
Bonjour.
Minute, minute, minute! Il y a une chose dont il faut qu'on parle.
On devait le dire seulement après que tante Hélène ait fait sa biopsie.
C'est pas ça. C'est à propos de Malcolm.
J'ai rien fait.
Si, c'est lui, je l'ai vu. J'ai reçu un professeur ce matin. Elle a fait passer des tests à Malcolm. Il a un quotient intellectuel de 165.
Qui?
Malcolm! C'est un génie. Il va aller dans une classe spéciale.
Quoi?
Malcolm est spécial? De qui il tient ça, à ton avis?
Un extrait du premier épisode de la série Malcolm ou comment dans une même famille on constate un fonctionnement des cerveaux très différent. Dans cette émission, vous l'aurez compris, l'idée c'est de comprendre comment marche notre cerveau. On entend pas mal de choses à propos de cet organe. Concrètement, docteur Meyer, quel est le rôle du cerveau ?
Le cerveau, c'est simplement un organe de régulation qui régule à peu près tout dans le corps. Sans lui, rien ne fonctionne, donc déjà, voilà, c'est très très large. Il réceptionne toutes les informations de partout et il envoie des commandes en fonction de ce qu'il a reçu. Donc son rôle est sans limite. Même quand on est dans le coma, on pourrait avoir encore un cerveau qui fonctionne énormément et peut-être même une forme de conscience.
Et du coup, comment ça marche tout ça ?
Alors, c'est pareil, on peut simplement résumer un tout petit peu les choses. Dans le cerveau, vous avez le cortex qui est à l'extérieur, qui fait 3 mm et qui est en surface, qui est censé être la zone intelligence. On parlait de matière grise. En dessous, il y a le cerveau, la substance blanche qu'on appelle la glie. On croyait que c'était une espèce de glu qui sert à rien et qui ne faisait que soutenir la partie intelligente, qui en fait, elle, contient le connectome, contient les cellules gliales et qui viennent se rajouter au rôle très important des neurones qui, eux, étaient les zones nobles de notre cerveau. Donc, en gros...
Mais les neurones, on s'en souvient dans nos cours de sciences, mais est-ce qu'on peut rappeler comment ça fonctionne? Il y a un signal
Tout à fait. Alors, un neurone, c'est surtout des signaux électriques et chimiques, puisque vous avez une information électrique qui arrive aux dendrites, qui sont des espèces de petits bras en contact avec d'autres neurones. Et puis ça arrive au corps cellulaire du neurone, qui lui traduit un peu ce qui se passe, et renvoie un influx électrique dans un grand bras qu'on appelle l'axone. Cet axone, il va finir sur une synapse, une petite synapse, c'est-à-dire deux parties qui envoient des petits messages à la synapse du neurone suivant, et l'information électrique va diffuser comme ça dans tout le corps. Les cellules gliales, elles sont situées dans la substance blanche sur le connectome. Le connectome, si chaque neurone du cortex avait 4 petits bras en contact avec les copains voisins, un de ces bras, un cinquième bras, traverserait tout le cerveau pour aller dans une zone extrêmement éloignée du cerveau, faire une espèce d'autoroute de l'information, un grand neurone où l'information va beaucoup plus vite. Et tout au long de cette espèce de trame, de cette fibre, de ces autoroutes, il y a les cellules gliales qui ont plein de rôles, des rôles anti-inflammatoires, des rôles inflammatoires, des rôles de destruction des cellules abîmées, des rôles de mémorisation d'un certain nombre de choses. Voilà, beaucoup de rôles, quoi.
On entend souvent dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même cerveau ou que l'un va mobiliser tel ou tel hémisphère tandis que l'autre fera l'inverse. C'est vrai, c'est faux?
Alors, c'est anatomiquement faux. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de différences hormonales. Après, il faudrait beaucoup de temps pour en discuter. Ce qu'on peut être sûr, c'est probablement le fait que socialement, les hommes et les femmes ne grandissent pas avec les mêmes règles et que ça a un impact énorme en termes d'apprentissage. Bon ou mauvais, on ne va pas en juger tout de suite, mais je pense que les femmes y ont pas mal perdu à travers les époques.
Justement, une chose qui est importante à retenir, c'est la plasticité du cerveau qui fera que peut-être ces règles vont changer. C'est-à-dire que le cerveau est capable d'évoluer.
Tout à fait. Tout au long de la vie, il évolue. Alors, il y a la notion de neurogénèse, c'est les neurones qui se fabriquent. Et là, ils ne sont pas tous fabriqués au moment de la naissance du bébé, mais dans les premiers mois, il y a de grosses modifications possibles. Après, tout au long de la vie, la neurogénèse, la capacité à fabriquer des nouveaux neurones est quand même très réduite, beaucoup plus réduite que chez le bébé. Par contre, ce qui existe encore tout le long de la vie et jusqu'au bout de la vie, c'est la neuroplasticité. C'est la capacité de faire des liens avec les neurones voisins et la capacité de créer des capacités et d'apprendre encore jusque très très tard dans la vie.
J'avais lu qu'on perdait des neurones. C'est vrai? C'est faux?
Alors oui, comme toutes les cellules peuvent mourir. On appelle ça l'apoptose, c'est la destruction d'une cellule. Simplement, il y a énormément dans notre cerveau de neurones qui ne sont pas définis, qui n'ont pas d'utilité définie et qui vont pouvoir se respécialiser dans un deuxième temps.
Docteur Meyer, maintenant qu'on voit un peu mieux comment ça marche, c'est quoi les neurosciences?
Alors c'est pareil, il faudrait un peu de temps. Simplement, on pourrait commencer par dire que ce sont les sciences qui étudient le cerveau et qui essaient de proposer des solutions à partir de cette étude-là. On en connaît assez peu de choses sur cet organe magnifique. Simplement, les neurosciences essayent d'aller comprendre comment ça fonctionne. Et là, il y a énormément de zones d'apprentissage et de découvertes à faire.
On entend de plus en plus parler, vous savez pourquoi?
Souvent, les neurosciences sont liées à l'apprentissage, donc elles ont un lien avec ce qui nous mobilise tous. En général, on a envie d'apprendre, on apprend toute notre vie. Et du coup, c'est vrai que dans cette société d'efficience, d'efficacité, et on a besoin de voir ce qu'on peut faire pour mieux apprendre, ou peut-être aussi freiner certaines pathologies, freiner certaines maladies. Évidemment, on pense tout de suite à la démence, par exemple.
Et est-ce que justement une personne qui serait capable de maîtriser un peu plus son cerveau, qui comprendrait un peu plus son fonctionnement peut-être qu'une autre, elle serait forcément plus intelligente?
Alors l'intelligence, c'est pareil, il faudrait parler du nombre de sortes d'intelligence différentes qui existent. Vous pouvez avoir une intelligence scolaire tout à fait considérée comme déficiente.
Et une intelligence scolaire?
Une intelligence scolaire, c'est-à-dire répondre à ce que l'école attend de nous dans notre pays, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément les mêmes attentes que dans d'autres pays. Quand vous êtes dans la courbe de Gauss, là, c'est-à-dire dans les 60 ou 80% des gens dits normaux, vous allez répondre à ce qu'on attend de vous. Et puis si vous êtes dans les 10% en dessous ou les 10% au-dessus, vous pouvez être en décalage suffisant pour paraître non intelligent, voire déficient, alors que votre intelligence va être particulièrement manuelle, particulièrement musicale, particulièrement empathique, particulièrement mathématique ou autre. Et ça, c'est pas forcément repéré dans une école normale, classique.
Le chercheur Stanislas Dehaene, dont vous aviez parlé dans votre édito précédent, a été missionné par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour présider le conseil scientifique. L'objectif, introduire les neurosciences à l'école. De quelle manière la compréhension du fonctionnement du cerveau peut-il aider les enfants?
Alors, aider les enfants et aider les enseignants. Stanislas Dehaene, il propose, en fait, il dirige un groupe de chercheurs dans plein de domaines. En neurobiologie, il n'y a pas seulement les neurosciences qui sont dedans, mais il va proposer de casser des dogmes des apprentissages et de la pédagogie en proposant des techniques valides, efficaces pour aider l'enseignant à enseigner et l'élève à apprendre tout au long de sa vie d'élève.
Quand on lit ses travaux, quand on l'écoute parler, il y a quand même une idée un peu du cerveau comme une machine, comme un ordinateur, avec une recherche de la performance. Quand même quelque chose qui revient assez souvent. Même une émission comme La Maison des Maternelles va aller chercher comment on rend son bébé performant, lui parlant en trois langues différentes. On risque pas trop de mettre la pression aux enfants avec tout ça?
Alors, au contraire, les neuroscientifiques ont tendance à plutôt proposer des techniques efficaces qui rendent plus confortable l'apprentissage et donc diminuer la pression ressentie par l'élève. La pression du résultat et la culture de la réussite à tout prix est en fait absolument négative pour le cerveau. Il faut apprendre à aimer l'échec, apprendre à se confronter et progresser grâce à ça.
Le Dalai Lama, lui-même, dans un célèbre talk show américain, a vanté les mérites des neurosciences, notamment pour une meilleure connaissance de soi. Depuis les années 90 et la tendance New Wave, la méditation est au centre de nombreuses formations, avec des personnes plus ou moins informées d'ailleurs. De nombreux livres paraissent également sur le cerveau, les écrans, l'amélioration de nos compétences cognitives. C'est un petit peu la même question qu'auparavant, mais est-ce qu'on risque pas de voir apparaître un business du cerveau?
Bien sûr, d'où l'intérêt de ne s'intéresser qu'à ceux qui ont prouvé leur capacité de recherche, leur capacité à remettre en cause, comme tout bon scientifique, tout au long de leur vie de scientifique, leur propre paradigme. Ils amènent une nouveauté, ils découvrent quelque chose, ils essayent de le prouver, ils le partagent avec la communauté scientifique internationale, ils essayent de les rendre pratiques dans notre vie de tous les jours, et puis ils sont capables de revenir en arrière sur ce qu'ils ont découvert et de remettre en cause leur découverte pour continuer à avancer. Et donc effectivement, il y aura un business comme dans tous les domaines qui fonctionnent et qui sont à la mode. Simplement, leur idée à eux, c'est que ce ne soit pas une mode, c'est que ça devienne quelque chose d'habituel pour tout le monde et atteignable par tout le monde.
Même du côté des chercheurs, il y a de la concurrence. Le chercheur en neurosciences et psychologue Albert Moukiéber explique dans une conférence TED, que je vous conseille d'aller visionner, que le cerveau se trompe tout le temps. Alors du coup, c'est quand même une grosse remise en question de ce qu'on vient de dire. Vous en pensez quoi ?
Si on n'accepte pas l'échec, on ne peut pas apprendre. L'échec est une excellente nouvelle. Je crois que c'est François Taddeï qui travaille beaucoup là-dessus sur Paris et qui est dans la culture de l'échec. Il explique que pour la nouvelle année, il nous souhaite beaucoup d'échecs. Les échecs vont nous permettre d'avancer, de nous remettre en question, de recadrer et d'avoir un retour sur expérience qui nous permettra de progresser ensemble. Si on n'est que dans la réussite par rapport à ce qui est attendu, d'abord, en général, on ne va pas au-delà de la réussite, et donc on ne progresse pas. Et puis ensuite, on n'explore pas tous les autres chemins que l'échec, parfois, nous a permis d'explorer. Beaucoup de découvertes ont été faites grâce à l'échec.
Il insiste aussi sur le fait qu'il faut parfois laisser son cerveau au repos. C'est possible ?
Alors c'est possible, même si lui-même sait que c'est impossible techniquement. Le cerveau n'est jamais au repos, avant le décès en tout cas. Et encore, on sait qu'il continue à travailler quelques jours après, sans notion de conscience évidemment. Le cerveau n'est jamais au repos. Par contre, on peut avoir des phases de mode de fonctionnement par défaut, où le cerveau va être dans une forme de rêverie, dans une forme d'absence apparente, et où la réflexion cognitive, la réflexion volontaire, intellectuelle, comme on peut l'imaginer, va être mise de côté pour laisser plutôt l'esprit vagabonder.
Comment on arrive à cet état ?
On peut considérer ça comme un bug, alors qu'en fait, il s'agit au contraire d'un moment où on se ressource, ou un moment où le cerveau prend des décisions, un moment où le cerveau travaille énormément, probablement plus qu'en phase active visible. Et puis, c'est un cerveau où on mémorise, un cerveau où on enregistre, un cerveau où il y a un phénomène de replay, on rejoue les choses importantes des minutes, des heures précédentes.
Un autre moment où le cerveau n'est pas au repos, c'est quand on se demande le lien entre cet organe, cette machine, et ce qui nous fait nous, ce qu'on pourrait appeler notre conscience, notre âme pour certains. C'est quoi la conscience du coup ?
Alors la conscience, il nous faudrait, je ne sais même pas combien d'émissions là pour le coup, et puis il faudrait pas être tout seul.
Il faudrait inviter
le Dalai Lama, des philosophes, des psychiatres, des neurologues, peut-être des religieux, parce que là, les religions travaillent aussi là-dessus, évidemment des neuroscientifiques.
Et est-ce que la science arrive à définir cette notion ?
Alors la science, alors là, vous allez dire qu'on parle que de Stanislas Dehaene, mais les travaux de Jean-Pierre Changeux également ont permis de proposer un modèle de la conscience qui n'est qu'un modèle. Ce modèle-là considère la conscience comme un espace de travail global central. Toutes les petites choses qu'on entend, qu'on perçoit, qu'on mémorise, etc., peuvent être dans un non-conscient périphérique. Et si tout à coup notre attention se porte dessus, alors ce point important sur lequel on porte notre attention va accéder à notre conscience, devenir conscient. On va pouvoir en faire quelque chose quelques instants, puis il va retourner dans la périphérie parce que quelque chose d'autre a attiré notre attention.
Pour les romantiques, hein, la Saint-Valentin, c'était il n'y a pas si longtemps. Qu'en est-il des émotions qu'on va ressentir ? Par exemple, comment ça se passe quand on tombe amoureux ?
Oui, alors là, si vous aimez bien Coup de foudre à Notting Hill, vous allez être extrêmement déçus. Il faudrait peut-être même carrément couper la radio là, pendant quelques secondes et revenir juste après parce que le fait de tomber amoureux, il y a des magnifiques émissions là-dessus, hein, sur Arte, vous en trouverez facilement. Mais en gros, c'est des phénomènes chimiques. On choisit notre amoureux, notre amoureuse, selon des critères qui sont la plupart du temps culturels, sociaux, familiaux, alors qu'on a l'impression que c'est le coup de foudre et que ça nous est arrivé naturellement et que la chance était là. Il y a après un phénomène de stress énorme qui est provoqué par la relation amoureuse, le pseudo coup de foudre. ça provoque un stress, de la cortisone, ça nous met dans une situation où on veut absolument réussir à faire quelque chose. Et puis après vont se mettre en place plein de circuits hormonaux avec de l'ocytocine, avec de la testostérone, avec des choses qui vont agir sur nos réactions, être particulièrement riches en début de relation amoureuse d'ailleurs. Et après il faut savoir l'entretenir parce que ça a tendance à baisser ou en tout cas à passer sur d'autres hormones différentes. Maintenant, la chimie c'est essentiel, c'est grâce à ça qu'on vit, c'est grâce à ça qu'on ressent. Après, c'est qu'est-ce que nous en faisons, quelle est notre personnalité, quelle est notre manière de vivre notre conscience. Là, c'est parfaitement personnel, imprévisible à l'avance, et nous sommes tous absolument uniques.
Et le cerveau n'est pas tout seul dans le corps humain. On parle d'autres cerveaux, notamment du microbiote intestinal ou encore du foie.
Les Chinois nous en parlent depuis des millénaires, peut-être des siècles seulement, je ne sais pas, mais pour eux, c'était évident que le foie, le cerveau, le pancréas, le tube digestif sont absolument liés. De plus en plus, les neurosciences nous montrent qu'il y aurait un deuxième cerveau, énormément de neurones dans le tube digestif et autour du tube digestif. D'ailleurs, on a tous des réactions parfois digestives à des stress ou à des bonheurs. Il y a également des neurones émotionnels en péricardiaque. Les poètes nous en parlaient il y a des milliers d'années nous montraient le cœur comme la zone des émotions. Mais effectivement, apparemment, c'est le cas. Donc, il y a encore beaucoup de découvertes.
On en reparlera dans une prochaine émission. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Vous êtes toujours sur Radio B, vous avez toujours rêvé de poser cette question à votre médecin, mais la salle d'attente est toujours bondée et il n'a pas le temps de vous répondre. Pas de problème, le docteur Meyer est là pour répondre à vos questions. Appelez-nous au 04 69 19 55 27. Et aujourd'hui, la première question nous vient de Thomas, notre réalisateur.
Bonjour docteur Meyer. Est-ce que les animaux peuvent être atteints de troubles mentaux, comme par exemple l'autisme ou la schizophrénie, toutes sortes de maladies comme ça ?
Pas simple de répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on arrive à provoquer certaines pathologies à certains animaux qui servent de cobayes hein, en laboratoire, donc c'est pas seulement rigolo. Grâce à ça, tester des traitements, des médicaments, des manières d'essayer de corriger les choses pour pouvoir, nous, humains, en bénéficier dans un deuxième temps. Après, est-ce que spontanément ça existe ? Je ne suis pas compétent pour répondre. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des modifications également chez les animaux, effectivement. En tout cas, on parle de dépression, on parle de troubles psychiques importants chez les animaux. Après, est-ce qu'on va parler de la même chose ? Je ne sais pas.
Une seconde question pour vous, celle de Cyril.
Alors bonjour, je m'appelle Cyril. Les médecins font des progrès dans le médical, comme une greffe de visage, faire repousser un nerf, réussir à opérer sans utiliser de sang. Quelle est pour vous la plus grande avancée médicale aujourd'hui ?
La grande avancée médicale aujourd'hui serait de réussir à de nouveau faire énormément confiance à la nature et de revenir peut-être à des choses simples, se rappeler qu'une grossesse c'est quelque chose de naturel, se rappeler que les gens ont des ressources internes énormes, et puis continuer à faire des recherches sur les troubles qui font souffrir énormément de gens, à savoir la douleur, les maladies psychiques, voilà.
Merci. Comme à chaque fin d'émission, docteur Meyer, vous aviez envie de nous parler d'un sujet qui vous touche, un sujet omniprésent, la souffrance des agents du service hospitalier.
Alors là, nous entendons parler depuis longtemps de la souffrance des agents de service hospitalier, qui sont aussi les aides-soignantes, qui sont les infirmières de l'hôpital public, notamment, hein, on va parler surtout du public, mais c'est pas seulement. Elles sont la plupart du temps sous-payées pour travailler en horaire décalé, alternant souvent jour, nuit, même pas forcément de manière très régulière. Elles portent des personnes dans leur métier, elles ont des travaux physiques extrêmement durs, les patients sont de plus en plus dépendants, ils vivent de plus en plus longtemps, les accidents de la vie, mais la vieillesse aussi, font que les gens ont de plus en plus de troubles physiques, psychiques, etc. Ces personnes-là, elles sont en plus sous des ordres de cadres qui sont elles-mêmes pressurisées par un mode de fonctionnement. Elles sont entre le marteau de la direction qui leur demande d'obtenir des résultats, et puis l'enclume des soignants de leur service qui ne comprennent de moins en moins le sens de ce qu'on leur fait faire, ou qui ont la sensation qu'on leur demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Le plus souvent, ces cadres sont des anciennes infirmières qui ont, entre guillemets, gagné le droit de ne plus vraiment voir de patients et de passer leur temps à essayer de gérer des plannings avec de plus en plus d'arrêts de travail, puisqu'il y a beaucoup de souffrances morales au travail et physiques. Et puis ces cadres, elles sont elles-mêmes sous la responsabilité fonctionnelle de médecins qui sont absolument pas formés au management et qui font de leur mieux pour maintenir des soins avec des équipes de plus en plus petites, des exigences de plus en plus hautes et des forfaits hospitaliers à la baisse, c'est-à-dire que l'hôpital, pour les mêmes actes qu'il y a un certain temps, gagne beaucoup moins d'argent et doit continuer à payer tout autant de soignants. Tout le monde sous la direction des administratifs hospitaliers qui eux-mêmes sont sous la direction des agences régionales de santé, du ministère, qui donnent des objectifs toujours plus élevés, dont celui de réduire les coûts. Donc forcément, il y a un moment, un hiatus entre les deux. Il fait donc augmenter les actes avec des médecins qui fuient le service public parce qu'ils sont payés à peu près 50% en dessous pour les spécialités courantes et la différence financière entre un médecin qui travaille en public ou en privé est encore plus importante pour les spécialités qui manquent. Il y a une espèce de logique commerciale ou financière dans laquelle de moins en moins de monde se reconnaît. Un spécialiste hospitalier du public fait plus de gardes, un travail d'excellente qualité et sans faire le tri de ses patients, il gagne entre 2 ou 3 fois moins dans la plupart des spécialités. La différence va le mener petit à petit vers un risque de burn-out ou de ras-le-bol, d'autant qu'il fait tout ça au milieu d'équipes lessivées.
Vous avez été interpellé par ces directeurs ou directrices d'hôpitaux qui témoignent sur Twitter.
Et oui, les directeurs utilisent maintenant les réseaux pour parler vrai. Sous pseudo, d'accord, mais tout de même. Et ils disent la même chose que tous les autres, en faisant semblant, en comité de direction, de ne pas être d'accord avec leur syndicat, tout en comprenant parfaitement ce dont ils parlent. Heureusement, la ministre tient le cap. Ah non, je crois qu'elle brigue une mairie.
Mais oui, pas n'importe laquelle, hein, on rappelle Agnès Buzyn, candidate à la mairie de Paris.
Et voilà, et l'avantage avec les soignants, c'est qu'ils ne font pas ces métiers pour rien. Alors, il est possible de les tirer, de tirer sur la corde assez longtemps. J'ai moins de collègues, ben, je bosse plus et plus vite, et puis on maintient la cadence. C'est déjà dire qu'à l'usine, ben, voilà, on peut accélérer la cadence parce qu'on peut remplacer au bout d'un moment les humains par des robots. On a déjà bien commencé. Mais la différence entre un boulon et un patient, c'est que l'un des deux a besoin d'humanité. Alors, on ne sait pas où on va, mais soyons sûrs que cela va tenir encore quelques temps comme ça. Celles et ceux que je vois travailler et accueillir ces humains dans leurs services hospitaliers ont encore du rap d'humanité à revendre et tiendront le cap jusqu'à ce que nous penchions sur ce qui fonctionne à l'étranger, tout en gardant ce qui est précieux chez nous.
Merci, docteur Meyer. Dans l'émission prochaine, nous parlerons avec Martin Winkler de son livre à paraître, C'est mon corps, autour de la santé des femmes. D'ici là, vous pouvez écouter ou écoutez cette émission en podcast via notre site radio-b.fr. À bientôt. Quoi de neuf, doc? Le 4e vendredi du mois sur Radio B.